On inspire, on expire, on respire, on souffle.
Carbone zéro.
Une émission pour semer des idées,
planter des projets,
récolter des solutions,
afin que le monde et la Terre tournent plus rond.
Ingénieur agronome et enseignant-chercheur français, Marc Dufumier a été impliqué dans de nombreux projets de développement agricole, en France comme à l'étranger. Il a milité dans diverses associations de solidarité internationale. Aujourd'hui, il est le président de la plateforme pour le commerce équitable. Je l'ai rencontré sur le salon Vivre Autrement à Paris. Pour Carbone Zéro, Marc Dufumier nous expose sa vision d'une agriculture intensément écologique. Aujourd'hui, on est sur un salon bio qui s'appelle Vivre Autrement. Je vous demanderai plus tard ce que c'est que pour vous le vivre autrement et pourquoi est-ce qu'on se pose la question du vivre autrement aujourd'hui. Mais tout de suite dans l'émission Carbone Zéro, Marc Dufumier, bonjour.
Bonjour.
Alors c'est une rencontre qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Je vais m'intéresser un peu à votre parcours et savoir ce qui a fait qu'aujourd'hui vous vous posez des questions, notamment sur les modes de production agricole. Donc Marc, parlez-moi un petit peu de vous et de votre itinéraire.
Bon, ben, j'ai fait des études en agronomie, donc j'ai été diplômé d'ingénieur agronome, un peu formaté comme à l'époque, parce qu'on se situe à la fin des années 60. Et j'ai eu l'opportunité de remplacer mon service militaire par un service civil coopération. Je suis parti à Madagascar sur un projet dit de riziculture améliorée. Et j'ai découvert à Madagascar que les thèmes techniques qu'on prétendait être améliorés, les femmes malgaches les refusaient obstinément. Et il m'aura fallu un peu de temps, quelques mois, mais pour comprendre que les raisons de leur refus étaient justifiées de différents points de vue, y compris strictement même microéconomiques. C'est les femmes malgaches qui m'ont enseigné, quand j'étais encore tout jeune agronome, ce qu'est un coup d'opportunité, à savoir qu'on leur demandait de repiquer du riz en ligne, à un moment où leur mari récoltait le café, et que tout retard repiqué en ligne, ça demande du temps, et tout retard dans le repiquage du riz, c'était les femmes qui rejoignaient leur mari récolter le café plus tard, et donc c'était des grains de café qui tombaient à terre. Alors qu'on leur demandait de repiquer en ligne pour ensuite pouvoir désherber plus facilement entre les lignes avec une petite roue dentée, et à un moment où elles n'avaient pas d'autre chose à faire. Donc c'est les femmes malgaches qui m'ont enseigné le fait que dans une exploitation agricole familiale, le coût du travail ne prend pas la forme d'un salaire, mais peut prendre la forme d'une perte de revenus, une perte de production quand on fait un travail à la place d'un autre. Donc au fond, c'est elles qui m'ont un peu initié, on va dire, à l'analyse systémique.
Qu'est-ce que vous appelez analyse systémique ?
Alors analyse systémique, en l'occurrence, là, quand c'est les femmes malgaches avec le repiquage en ligne, elles m'ont appris que leur système de production agricole était un système, qu'il ne fallait pas raisonner l'amélioration, comme disaient les agronomes à l'époque, de la production de riz, sans regarder la globalité, la totalité de leur système d'activité, notamment les systèmes d'activité agricole, elles, leurs familles, leurs enfants, leurs maris et autres, et que tout ça est combiné, savamment combiné souvent, le produit d'une très longue expérience, et qu'on a tort de vouloir souvent en agronomie améliorer la production rizicole, améliorer la production de café, améliorer la production d'une autre culture ou d'un élevage, à chaque fois considéré séparément. Donc plus tard on parlera d'agro-écosystème, c'est aussi une analyse systémique, à savoir qu'il y a une relation étroite entre le sol, le climat, la plante, les coccinelles avec les pucerons, les scarabées avec les limaces, la fécondation conditionnée par la survie des abeilles. Donc avant de commencer à prétendre améliorer une technique, je prends les mots à la mode, améliorer, toujours améliorer, comme si les agronomes connaissaient le meilleur, eh bien il nous faut déjà regarder la complexité de ces systèmes, que ce soit des systèmes écologiques, écosystèmes, ou que ce soit des systèmes productifs, les systèmes de production agricole.
Donc en agronomie, a priori, ce qu'on apprenait d'abord, c'est la notion du rendement. Il faut que la terre soit productive pour pouvoir répondre aux besoins, mais sans vraiment prendre l'agronomie dans une dimension globale. C'est ça que je comprends ?
Alors d'abord, dans les critères d'évaluation des pratiques agricoles, il y a effectivement le rendement à l'hectare, ce sera le rendement brut. Et l'argument souvent avancé, et il faut quand même en tenir compte de cet argument, à savoir que la terre est de taille constante, il y a même des surfaces agricoles qui sont en voie de disparition, la population est croissante, et donc l'idée qu'il nous faut accroître le rendement à l'hectare pour nourrir mieux une population croissante n'est pas en soi complètement idiote. Mais on parle à ce moment-là du rendement à l'unité de surface. L'agriculture industrielle et beaucoup de thèmes dits d'amélioration technique a d'abord essayé d'améliorer la productivité du travail en remplaçant les agriculteurs par des machines, en remplaçant les gens qui désherbaient par du désherbant. Le Roundup a permis à des grands exploitants d'évincer leurs salariés, remplacés du coup par un herbicide qui se voulait total. Donc on a considérablement accru la productivité du travail, mais on n'a pas toujours accru le rendement à l'hectare. Pire, dans d'autres pays, alors là on revient un peu en France, pour accroître le rendement brut à l'hectare, on a intensifié en intrants, alors on va dire en intrants chimiques, les engrais de synthèse, les produits phytosanitaires, on a tellement intensifié en coûts que finalement la valeur ajoutée, c'est-à-dire le produit brut total à l'hectare, quand on soustrait les coûts, ce que le producteur détruit dans le processus productif, donc les engrais existaient, ils n'existent plus, les carburants existaient, ils ont été brûlés par le tracteur, les pesticides existaient, ils n'existent plus. Donc notre agriculture productive, il faut savoir, elle est aussi très destructive. Et qu'on fait la soustraction de ce qui a été produit et que l'on soustrait ce qui a été détruit, il reste la valeur ajoutée. Et on découvre que notre agriculture, souvent intensive, certes, eh bien, elle ne produit pas le maximum de valeur ajoutée à l'hectare. Donc il nous faut être très prudent, quand même seulement en termes économiques, pour l'instant on n'en est qu'en termes économiques, on veut évaluer les différentes formes d'agriculture, ne pas évaluer que sur le rendement brut à l'hectare, mais déjà regarder la valeur ajoutée, c'est-à-dire la vraie création de richesse par l'agriculteur, regarder les coûts, et évidemment dans les coûts, il y a les coûts dont j'ai parlé, les coûts monétaires, il a fallu acheter des engrais, il a fallu acheter des pesticides, mais maintenant évidemment on comprend qu'il faut aussi regarder les coûts environnementaux, et dans les coûts environnementaux, il peut y avoir l'effondrement des abeilles, il peut y avoir un taux d'humus qui diminue, il peut y avoir des pollutions de littoral breton par des algues vertes, et après tout, nous tous, nous payons des impôts pour retirer ces algues vertes, heureusement ce n'est pas les seuls contribuables bretons, nous payons aussi des impôts pour que l'eau devienne potable, si l'eau du robinet en France est encore à peu près potable, il faut savoir que quand même ça nous coûte en impôts, et pas seulement la redevance pour l'eau, en impôts, le contribuable paye. Bref, il y a dans l'évaluation des systèmes de production agricole, et dans l'évaluation de ce que deviennent les agroécosystèmes, c'est-à-dire les écosystèmes aménagés par les agriculteurs, il ne faut pas juger qu'en termes économiques et monétaires, mais il faut aussi prendre en compte ce que les économistes appellent des externalités négatives. Le lait pas cher nous coûte très cher, puisqu'on paye des impôts pour retirer les algues vertes, on paye des impôts pour potabiliser l'eau. Il faut être prudent. Et puis ensuite, les générations futures, c'est effectivement, est-ce qu'il y aura encore de l'humus dans le sol? Est-ce que le sol va être érodé? Est-ce que les abeilles vont pouvoir survivre et continuer à fertiliser les pommiers, les poiriers, le tournesol et le colza? Souvent, ce sont des évaluations donc, qui sont incomplètes.
Si toi et moi, on était pareils, un même combat pour vivre les mêmes émois, un même père aimant la même mère, un même peuple aimant le même roi. Et est-ce qu'on laisse à nos descendants la même haine, la même couleur du sang, la même peur brûlant les mêmes âmes, la même sueur brûlant les mêmes fronts, la même mort glissant des mêmes monts, les mêmes drames à l'intérieur des mêmes femmes. Pourris par la racine, des fleurs fanent sur la terre promise. Pourris par la racine, j'ai peur du monde. Fleurs fanent sur la terre promise, pourrie par la racine, j'adore ce monde.
qui se pose ces questions aujourd'hui? Est-ce qu'on se les pose, ces questions, dans le système actuel de production agricole en France?
Si on regarde bien, la plupart des agriculteurs n'ont fait effectivement que ce qu'on leur a demandé, que ce que leur coopérative leur demandait, que ce que les conseillers agricoles leur demandaient. Ils sont eux-mêmes, les agriculteurs, victimes de cette agriculture industrielle, parce qu'exposés aux pesticides, parce qu'eux-mêmes, on ne leur a pas appris dans la comptabilité de mettre dans la colonne de gauche, la colonne charge. Vous savez, quand il y a deux veaux qui meurent dans l'année, on compte ça comme une perte, comme une variation d'inventaire. Une perte, ça apparaît bien dans la colonne de gauche. Mais quand le taux d'humus diminue, tous les ans, on a oublié de mettre dans la colonne de gauche. On a oublié, on ne leur a pas enseigné à le mettre dans la colonne de gauche. Donc on a enseigné aux agriculteurs des comptabilités, on va dire des calculs tronqués. Alors aujourd'hui, on ne peut plus faire comme si on ne s'en rendait pas compte. Aujourd'hui, les agriculteurs, les consommateurs, évidemment les associations environnementalistes sont amenés à discuter, et à discuter si possible ensemble, et à trouver ensemble des solutions pour une agriculture alternative.
Alors aujourd'hui, vous allez intervenir. Quel est le titre de la conférence et quelles sont les valeurs que vous souhaitez transmettre et la réflexion que vous voulez amener au grand public?
Le titre de la conférence est du type « Est-ce que le bio peut nourrir la planète hein, et peut nourrir l'humanité tout entière ?» Parce qu'effectivement, il y a un certain nombre de gens qui rétorquent que s'il est vrai que l'agriculture bio produit plus sain, s'il est vrai que l'agriculture bio respecte plus l'environnement, s'il est vrai que l'agriculture bio produit plus de valeur ajoutée à l'hectare, c'est-à-dire qu'en définitive, la ferme France s'enrichit avec l'agriculture bio et non pas s'appauvrit comme le pensent certains, tout cela étant vrai, quand même, si on veut nourrir l'humanité tout entière, est-ce qu'il ne faudrait quand même pas produire plus en produits bruts, plus de céréales, plus de sucre, plus de poudre de lait, plus de poulet, plus de viande, plus de tout, parce que la population est croissante. Donc cette question, je la trouve légitime, c'est la question qui m'a été posée pour la conférence, et je vais donc tenter d'y répondre en disant deux choses. C'est que, un, il ne faut pas transposer dans les pays du Sud, où sévit la faim, notamment les pays déficitaires, il ne faut pas transposer là-bas des choses observées chez nous, à savoir que chez nous, quand un agriculteur passe d'une agriculture industrielle à une agriculture bio, c'est vrai qu'on voit le rendement brut diminuer. Mais comme les coûts diminuent encore davantage, la valeur ajoutée est accrue, mais quand même le rendement brut diminue, c'est-à-dire que le volume physique de blé, de sucre, etc., on le voit diminuer. Si la population est croissante, ça voudra dire qu'il y aura moins de nourriture. Voilà. Alors la réponse, c'est que dans les pays du Sud, pas du tout. Dans les pays du Sud, on peut d'emblée accroître les rendements par des voies que j'ai tendance à considérer, à qualifier dans un premier temps de agroécologique ou de intensément écologique, c'est-à-dire une agriculture qui va effectivement être plus intensive à l'hectare, intensive en emploi, je le dis tout de suite d'abord, hein, donc ne pas remplacer les agriculteurs par des machines pour les renvoyer dans des bidonvilles. On va faire un usage intensif de l'énergie solaire pour fabriquer l'énergie alimentaire, parce qu'on l'oublie un petit peu, mais toute notre énergie alimentaire, nos 2200 kilocalories et plus que nous consommons tous les jours en allant travailler, en jouant au foot et en chantant, elle est remplacée par l'énergie alimentaire que nous ingurgitons. Cette énergie alimentaire nous vient du soleil, ce qui est une bonne nouvelle, ressource naturelle renouvelable. Il n'est pas annoncé de pénurie de soleil avant 1,5 milliard d'années, donc ce n'est pas là que se situe la crainte. Je suis pour une agriculture hautement intensive, il s'agit bien d'intensément écologique. On ne manque pas chez nous, mais on ne manque pas non plus dans les pays du Sud, le soja, l'arachide, le pois d'Angole, le niébé, de plantes de la famille des légumineuses capables d'intercepter l'azote de l'air, c'est des microbes qui les aident à faire ça, et fabriquer sur place les protéines. Les microbes qui les aident à faire ça, évidemment, utilisent l'énergie de la photosynthèse qui a été interceptée par la plante, mais n'empêche que ces microbes fabriquent les protéines, et nous avons des aliments riche en protéines, on peut le faire en circuit court sur le territoire, sur les terrains de chacun des territoires. En France, on n'est pas obligé d'importer de l'azote sous la forme de soja importé, de l'azote de l'air brésilien. Mais là-bas, dans les pays du Sud et les pays déficitaires, ils peuvent produire par eux-mêmes aussi leurs protéines, par des voies donc biologiques, avec en plus le fait que ces mêmes légumineuses laissent des résidus azotés dans le sol, qui permettent de fertiliser le sol en azote. D'ailleurs, un sol qui est bien fertilisé en carbone et en azote, ça fabrique de l'humus. Que d'ailleurs, pour fabriquer de l'humus, c'est pas mauvais de mettre les animaux sur la paille, parce que l'azote de l'urine, quand ça rejoint le carbone de la paille, les microbes mangent le carbone de la paille, ça breuve de l'azote de l'urine, fabrique des corps microbiens, ça s'appelle fabriquer du fumier. Mais le fumier, ça permet aussi de produire de l'humus. Enfin bref, qu'il y a des formes des voies biologiques qui permettent aux populations les plus pauvres du monde, celles qui sont déficitaires aujourd'hui en céréales, en tubercules et en lipides, eh bien, il leur est possible de produire par elles-mêmes en accroissant les rendements, en faisant l'usage le plus intensif possible de ces ressources naturelles renouvelables. Et du coup, si vous maintenez des haies, si vous laissez des pommiers dans la prairie, si vous cultivez votre mil sorgho sous des parcs de karité, de nérés, d'acacia albida au Sahel, vous avez des animaux qui vont aller chercher les éléments minéraux en profondeur, ça remonte avec la sève, c'est fixé dans les feuilles, la feuille morte tombe à terre et ça fertilise la couche arable pour la culture de mil et de sorgho. Et donc il y a bien des voies biologiques y compris donc pour rendre assimilables des éléments minéraux qui existent dans la couche arable, et donc la crainte de pénurie évidemment est retardée d'autant. C'est quand même sur les éléments minéraux où la menace de la finitude de notre monde est bien supérieure, hein, bien supérieure à l'énergie solaire, bien supérieure au carbone et à l'azote. Il faut être très prudent dans la gestion des éléments minéraux, mais au fond on a toutes les raisons d'être optimiste sur le fait que techniquement, oui, il est possible aux populations du Sud de se nourrir par elles-mêmes en accroissant les rendements, donc en intensifiant à l'hectare par des voies strictement biologiques.
Et donc il faut repasser par une compréhension de l'environnement dans lequel on vit, renouer avec le langage de la nature et comprendre tous ces phénomènes-là.
Effectivement, donc ça s'appelle en agroécologie, ou ce que l'agronomie n'aurait jamais dû cesser d'être, gérer en circuit court le cycle du carbone, le cycle de l'eau, le cycle de l'azote, le cycle des éléments minéraux. Mais ces cycles prennent des formes assez complexes. Quand vous mettez une haie, évidemment, ça va peut-être vous faire brise-vent. Si ça fait brise-vent, ça veut dire que la plante qui sera ainsi protégée va pouvoir allonger sa durée de transpiration et ça va permettre d'accroître la durée de la photosynthèse. Mais la haie peut éventuellement héberger aussi les coccinelles. Et si les coccinelles neutralisent les pucerons, vous ne mettrez peut-être plus de pesticides pour neutraliser les pucerons. Et si dans l'ourlet en bas, la petite bande enherbée en bas de la haie, il y a des limaces, en tout cas s'il y a surtout des scarabées, les scarabées vont s'attaquer aux limaces. Et si les scarabées s'attaquent aux limaces, éventuellement vous ne mettrez plus de pesticides. Et s'il y a des bois pas trop loin et qu'il y a une mésange qui s'attaque au carpocaps, et puis si dans la haie vous avez des fleurs, ou même si dans vos rotations vous mettez chez nous, il y a urgence de remettre chez nous des plantes de la famille des légumineuses, hein, ces fameux lotiers, sainfoin, luzerne, trèfle, lentilles, haricots, petits pois, pois chiches, févroles, vous permettez aux abeilles et aux insectes pollinisateurs de retrouver une plus grande diversité pour récolter le nectar, le pollen, et justement, vous évitez la surmortalité des abeilles, et c'est comme ça que vous sauvez la fécondation d'un très grand nombre de plantes alimentaires. C'est toutes ces interactions, et on revient sur la notion d'écosystème, en l'occurrence là maintenant d'un écosystème qu'on pourrait dire agro-écosystème, aménagé par les agriculteurs, et on découvre que les agriculteurs et que l'humanité, quand elle aménage son environnement, quand elle aménage la nature, elle n'est pas nécessairement destructrice. C'est l'agriculture industrielle qui a voulu jouer les économies d'échelle, la production à grande échelle, et je te remplace les agriculteurs par des machines, et comme j'ai amorti du matériel, il faut que je me spécialise vers la production pour laquelle je pourrais amortir mon matériel, et du coup je dissocie agriculture, élevage, je produis à grande échelle avec un gros tracteur, je détruis l'humus, ça, je ne peux pas labourer dans les coins, je détruis la haie. C'est cette agriculture-là qui a détruit l'environnement.
J'allume mon poste de télé pour admirer ce qu'il s'y passe. Un milliardaire s'en va en l'air, quitte l'atmosphère pour voir l'espace. Je troque son bol d'air et sa cuillère contre un petit verre sur ma terrasse. J'en ai ras le bol de tout ce béton, j'ai la folie des grands espaces. J'en ai ras le bol de tout ce béton, j'ai la folie des grands espaces. Mais qu'est-ce qui se passe dans nos petites têtes? On s'entasse tous comme des sardines dans les grosses boîtes que l'on conserve. Le petit poisson doit suivre sa ligne. Dans les grosses boîtes que l'on conserve, le petit poisson doit suivre sa ligne. Et puis merde, j'ai décidé de vivre au loin sur la colline. Vivre seul dans une maison avec la vue et ma raison. Je préfère vivre pauvre avec mon âme que vivre riche avec la leur. Si le blé me file du bonheur, je me ferais peut-être agriculteur.
L'humanité a déjà montré qu'on pouvait aménager intelligemment des agroécosystèmes qui permettent de nourrir une population croissante par des voies strictement biologiques. Oui, l'agriculture biologique, contrairement à ce que certains s'imaginent, c'est pas l'âge de pierre, c'est pas la bougie, c'est pas le retour en arrière, c'est une agriculture hyper moderne. Vous avez des gens qui pratiquent, qui coupent les haies chez nous pour ensuite le couper en petits morceaux et faire du bois raméal fragmenté. Le bois raméal fragmenté, c'est assez délicat comme technique parce qu'il y a beaucoup de carbone, et si le sol n'était pas préalablement enrichi par l'azote d'une légumineuse, et ben ça met du temps, ça peut être un peu préjudiciable. Mais par contre, s'il y avait eu une légumineuse, ça peut être très favorable. Mais en plus, la première décomposition de ce bois raméal fragmenté, c'est les champignons. Et dans ces champignons, il y a quelques champignons mycorhiziens très filamenteux qui vont chercher les éléments minéraux coincés entre les feuilles d'argile. Bref, de nouveau, c'est très compliqué, c'est savant. Mais enfin, on n'est pas en manque de techniques modernes, novatrices, qui permettent effectivement de faire un usage le plus intensif possible des ressources naturelles renouvelables ou pléthoriques et la plus économe en énergie fossile et sans agrotoxiques.
Donc j'ai bien compris le message, hein. On vit sur une planète finie avec des ressources qui sont limitées. Aujourd'hui, il faut repenser les modèles actuels pour pouvoir et nourrir la planète et respecter l'environnement dans lequel on vit. Et vous êtes là pour montrer comment faire. Maintenant, je vais me positionner comme un enfant. Voilà, j'ai 6 ans et j'ai parlé à Papa Marc, hein, Papa Marc du fumier. J'aimerais savoir, avec mes yeux d'un enfant, quel serait le bon système pour pouvoir vivre ensemble et en accord avec la nature. Mais expliquer à un enfant.
Bah, expliquer à un enfant, je commencerai par expliquer que le plus important, c'est de maintenir une énorme biodiversité. Alors, il me faut effectivement expliquer que la biodiversité, c'est que dans un même champ, dans une même parcelle, il y ait plusieurs espèces de légumes, pourquoi pas des arbres fruitiers, pourquoi pas une haie pour faire des brise-vents, et que le plus important pour éviter les grands déséquilibres écologiques, ou au contraire pour les générations futures, puisqu'il est gamin, pour les 40 ans, les 50 ans qui viennent, c'est de préserver en premier lieu cette énorme biodiversité et d'éviter de faire sur un vaste espace une seule plante, une seule culture, une seule production. Ça, c'est la règle d'or, j'allais dire. Et quand on fait ça, bah, effectivement, on se retrouve avec un volume de toute façon de végétaux. On dit biomasse, hein, dans notre jargon. J'essaierai d'expliquer ce que c'est qu'une biomasse, une masse vivante, hein, c'est ça que ça veut dire. Souvent beaucoup plus considérable. Et du coup, on enrichit aussi le sol et que dans le sol lui-même, et je peux l'inviter à faire des petits trous pour voir qu'il y a une biologie extrêmement complexe. Évidemment, le plus visible, c'est les vers de terre, mais il n'y a pas que des vers de terre. Il y a des champignons, il y a des microbes, il y a des collemboles, il y a une foule d'insectes et autres, et qu'ils jouent un rôle sur la fertilité des sols, sur sa porosité, sur la teneur en humus. Alors j'essaierai quand même d'expliquer ce qu'est l'humus, mais je regarderai si le sol il est noir ou si au contraire il est gris ou s'il est tout jaune. Et progressivement, je dirais par l'observation, montrer que oui, on peut à la fois produire et vivre sainement et qu'il aurait peut-être intérêt, lui jeune justement, en pleine croissance et notamment dans des périodes par exemple comme la puberté, ne pas s'exposer à des pesticides et que vaut mieux fréquenter des abeilles donc que des pesticides.
Donc comprendre et aimer cette diversité où finalement tous les êtres vivants sont interdépendants les uns des autres et où l'action sur un de ces êtres vivants de la chaîne peuvent avoir des répercussions sur d'autres.
Oui, ça c'est le message, c'est le premier message qu'il faut retenir, c'est que tout acte technique, et notamment technique agricole, a un impact sur l'ensemble de l'agroécosystème, même un travail du sol a un impact sur l'ensemble de l'écosystème et pas seulement sur le sol.
Donc reconstruire des écosystèmes, les intensifier, les diversifier pour pouvoir recréer un équilibre et pouvoir produire suffisamment pour tous, donc ça ce serait l'idéologie, l'utopie qu'on aimerait pouvoir vivre aujourd'hui. On en est où? Est-ce que c'est quelque chose qui se réalise ou est-ce qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire pour arriver à une agriculture plus saine pour l'homme et l'environnement?
Bon, ben, il y a effectivement beaucoup de chemin à faire. Les progrès récents, je pense quand même, c'est dans la compréhension de tout ce qu'on vient de dire là. L'idée que l'agriculture biologique, c'était l'âge de pierre et la bougie, était encore en vigueur il y a 5-10 ans. Aujourd'hui, les gens qui n'osent pas transformer ça, se convertir, on dit, j'aime pas beaucoup l'expression, ça fait très religieux se convertir au bio, mais en tout cas, changer de système technique pour l'agriculture biologique, les gens qui sont réservés aujourd'hui et qui en ont peur, ça progresse lentement pour de multiples raisons, mais au moins aujourd'hui, ils reconnaissent que leur réticence, c'est pas parce que c'est l'âge de pierre, mais c'est parce que c'est beaucoup trop savant, beaucoup trop compliqué, beaucoup trop intensif en emploi, que du coup, le travail doit être rémunéré, parce que cette agriculture soignée, artisanale, elle est exigeante en travail, mais ceci étant dit, est-il si grave en France d'installer des jeunes agriculteurs et de créer des emplois qu'à 10% de chômage? Est-ce qu'il faut vraiment poursuivre l'exode rural? Je pense que non. Et donc, justement, c'est aussi un de ces bienfaits de cette agriculture en question, artisanale, soignée, exigeante en emploi, mais c'est vrai qu'elle doit être du coup bien rémunérée, soit par la qualité du produit, d'où l'intérêt quand même d'avoir un label bio, d'avoir des marques de mes terres, nature et progrès, qui donne même confiance à l'agriculteur et qui lui permettent de payer plus cher le produit en échange effectivement d'une qualité. Mais je crois aussi qu'il y a urgence de commencer à rémunérer les services environnementaux en passant par les régions. Ces mêmes subventions pourraient être d'abord non pas des subventions et des aides, mais des rémunérations. Vous pratiquez le zéro labour, vous ressuscitez des vers de terre dans le sol, ça permet de fixer du carbone dans le sol, ça permet de diminuer la contribution d'agriculture au réchauffement climatique, je vous paye. Vous mettez des légumineuses dans vos rotations et vos assolements, ça permet à la fois de fertiliser le sol en azote, ça nous évite des engrais azotés de synthèse, ça nous évite du coup aussi, ne l'oublions pas, de l'importation quand même de gaz naturel russe ou norvégien, hein, parce que les engrais de synthèse sont très coûteux en énergie fossile. Les légumineuses permettent d'héberger les abeilles, et du coup vous sauvez la fécondation des pommiers, des poiriers de vos voisins. Et bien, écoutez, vous rendez un service, et bien, je vous paye. Et donc, vous maintenez des haies avec des coccinelles qui neutralisent les pucerons, ça évite de nous mettre des pesticides, je vous paye. En fait, les agriculteurs qui se consacrent à l'agriculture intensément écologique, l'agriculture bio avec son cahier des charges en est un des plus parfaits exemples, eh bien ces agriculteurs méritent d'être rémunérés par la qualité de leurs produits, ça c'est le logo qui donne confiance aux agriculteurs, et par les services environnementaux rendus à la société en général, il est logique à ce moment-là que le contribuable paye, et ce n'est plus de la mendicité, ce n'est plus de l'aide, c'est vous nous rendez service, on vous paye en conséquence, c'est très bien, vous pouvez, vous, agriculteur, droit dans vos bottes, continuer de produire sain, continuer et d'améliorer nos écosystèmes, de les réparer d'abord et d'en construire des nouveaux pour l'intérêt général, et vous méritez d'être rémunéré pour ce faire. Ce n'est plus des aides, vous n'êtes plus des mendiants, vous êtes des gens qui œuvrez pour l'intérêt général. Chapeau les gars, on vous paye.
Donc là, on parle des agriculteurs qui représentent 2, 3, 4% de la population ?
Oui, autour de 3, peut-être légèrement moins aujourd'hui.
Donc j'ai envie de m'adresser aux 97 autres pourcents qui sont finalement les consommateurs de ces produits, hein, qui eux sont peut-être loin du discours duquel on est en train de parler parce qu'ils ne sont pas les mains dans la terre dans cette logique de qu'est-ce que, comment produire, mais plutôt de qu'est-ce que et comment consommer. Donc aujourd'hui, on a aussi, nous, en tant que consommateurs, notre rôle à jouer si on veut que ces techniques agricoles, l'agroécologie, puissent se développer. On peut tout à fait choisir de consommer ces produits déjà issus de cette agriculture-là. Donc c'est à ces 97% que j'ai envie de m'adresser là maintenant. Qu'est-ce qu'on peut leur dire à ces consommateurs ?
Alors, ce qu'on peut dire, c'est que déjà au cours des 5 dernières années, malgré la stagnation du pouvoir d'achat, hein, qui n'a quasiment pas augmenté en France depuis 5 ans, la consommation de produits bio en France a plus que doublé. Donc on voit bien déjà que la somme de comportements individuels, certes encore minoritaire, mais de gens qui décident pour éviter la vache folle, pour éviter la dioxine dans le poulet, pour éviter les pesticides dans les fruits et légumes, pour éventuellement éviter aussi quand même les algues vertes, c'est-à-dire parfois pour des raisons éthiques ou pour des raisons sanitaires, il y a bien des gens qui changent leur modèle de consommation. Et ça a déjà un impact macroéconomique puisque la France, du coup, importe de plus en plus de produits bio. Donc moi, ça me permet de parler, c'est pas encore les 97%, mais au ministre de l'Agriculture, pour dire que là, alors désormais, maintenant, si on voit bien qu'il y a une consommation accrue de produits bio, il faudrait que l'offre suive et que la conversion des systèmes de production au bio suive. Et donc, effectivement, le rôle du consommateur, même si ça paraît très individualiste, je décide de changer mon comportement pour des raisons sanitaires, la somme de ces comportements a des effets macroéconomiques et macroécologiques si l'offre finit par répondre, si les conversions bio finissent par suivre. Ça, je n'hésite pas à le dire aux consommateurs. Oui, pour votre santé, vous avez intérêt à vous éviter quand même les pesticides et dans les pesticides, les perturbateurs endocriniens, parce que maintenant, quand on commence à mieux connaître aussi, la science a progressé hein, ces dernières années, on connaît dans les familles de pesticides un certain nombre d'entre eux qui contribuent à, même à, quand l'exposition est à faible dose, mais de façon prolongée, et surtout dans les plus jeunes âges, y compris depuis in utero jusqu'à la fin de la croissance, en tout cas post-puberté, ça se traduit par une espérance de vie en bonne santé moindre, c'est-à-dire une espérance de vie sans Parkinson, sans Alzheimer, sans cancer de la prostate pour les hommes, qui, disent certains scientifiques, irait jusqu'à 10 ans de moins que les gens de ma génération qui, quand j'étais jeune, et j'étais moins exposé à ces pesticides, les fruits et légumes à l'époque n'avaient quasiment aucun pesticide. Donc aujourd'hui, là aussi, on y comprend mieux, et donc au consommateur, je l'inviterai ne serait-ce que pour sa propre santé, mais évidemment aussi pour l'intérêt général, éviter les algues vertes, c'est le littoral breton, éviter les pollutions des nappes, et autres, de changer de comportement en tant que consommateur. Et j'inviterai les politiques à prendre les mesures politiques nécessaires
pour permettre aux agriculteurs une reconsidération de leur travail et les rémunérer d'une manière plus juste. Merci beaucoup, Marc. Dans son dernier livre, 50 idées reçues sur l'agriculture et l'alimentation, Marc Dufumier nous permet d'en finir avec les idées reçues et de connaître vraiment les enjeux qui se cachent derrière notre assiette.